Allons dans la prière ensemble. Seigneur, quel privilège de pouvoir être appelés les enfants de Dieu, de pouvoir être pardonnés de tous nos péchés. Oui, Seigneur, c'est pour cela que nous voulons chanter. De pouvoir chanter avec joie que nous sommes pardonnés, que tu as fait de nous des enfants, que Jésus a payé pour tous nos péchés en mourant à la croix. Oui, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur. Et proclamer, comme on vient de le faire, que tu es un Dieu fidèle. Et non comme nous. Que toi, tu ne changes pas, contrairement à nous. Que tu es notre rocher, que tu es notre paix. Que nous pouvons nous appuyer sur toi dans les tempêtes de la vie. Et Seigneur, nous venons ici ce matin avec nos joies, avec nos fardeaux, avec nos peines. Et on veut t'apporter tout ça, Seigneur, ce matin. On veut te remettre nos cœurs. On veut reconnaître que nous avons besoin de toi. Oh, comme nous avons besoin de toi. Seigneur, on veut te remercier de nous avoir donné ta parole, de nous avoir donné la Bible par laquelle on peut te connaître d'une façon certaine, véridique. Merci de ce que tu ne nous as pas laissé à essayer de tâtonner à droite et à gauche, chacun se faire sa propre idée de qui Dieu est et d'être peut-être à moitié dans le bien puis à moitié dans l'erreur. Merci de t'être révélé à nous d'une façon suprême par ton Fils, par qui nous avons accès à toi. Alors Seigneur, alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, à entendre d'elle, nous te prions que tu puisses parler à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, comme Samuel dire, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Bénis ta parole, Seigneur, dans chacun de nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Amen.
Amen.
Il y a peu de moments dans la vie où on démontre aussi peu de gratitude qu'à l'adolescence. Alors, si vous êtes déjà passé par là, ou peut-être même si vous avez oublié, c'est rare de trouver des adolescents qui sont vraiment reconnaissants. Ou, je reformule. Si on regarde notre vie, c'est fort possible qu'un des moments où on a été les plus ingrats soit dans notre adolescence. Donc, ça n'empêche pas qu'on puisse être reconnaissant, qu'on puisse exprimer notre gratitude comme adolescent. Mais c'est une phase de la vie où c'est peut-être un petit peu plus difficile. Dans le portrait le plus stéréotypique de l'adolescent, ça c'est évidemment, il n'y a personne comme ça qui existe, c'est un peu une métaphore, mais on croit que tout nous est dû lorsqu'on est ado. On n'est pas reconnaissant, nos parents ne savent rien, ou du moins pas autant que nous. Et cette semaine, j'ai vu une belle affiche, je l'ai pris en photo, j'aurais aimé ça, penser, c'était en anglais, puis ça disait quelque chose comme ceci. Pendant que vous êtes adolescent et que vous trouvez ça dur de vivre avec vos parents stupides qui ne savent rien, alors profitez-en, pognez-vous une job, déménagez en appart et occupez-vous de vos affaires pendant que vous savez encore tout. C'était dans un centre pour jeunes, un centre pour jeunes pour des ados là, qui viennent faire des jeux. Un centre chrétien à Châteauguay que ma femme et moi, on a visité cette semaine, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Et c'est souvent une fois qu'on a quitté nos parents qu'on se rend compte, « Ah, OK! » Bon, ils en savaient peut-être plus que je pensais. Mais nos parents ne savent pas tout. Puis ils ne connaissent certainement pas tout ce qui se passe dans notre cœur lorsqu'on est ado, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adulte, et même comme parents, on fait de notre mieux, mais il n'y a aucun d'entre nous qui est omniscient comme Dieu. et qui est capable de parler, qui a toujours le mot juste et l'attitude juste envers nos enfants. Alors, on n'a pas eu des parents parfaits, mais on peut quand même être reconnaissant pour nos parents, peu importe leurs qualités, peu importe leurs imperfections. On a commencé la semaine passée une série dans l'Épître aux Colossiens, une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église des gens qui habitaient dans la ville de Colosse, en Turquie moderne. C'est des gens que l'apôtre Paul n'avait jamais rencontrés, mais pour lesquels il était reconnaissant pour cette église-là. Il leur a écrit une lettre pour les encourager dans la foi. Il leur a écrit une lettre aussi pour les mettre en garde contre des mauvaises influences qui avaient lieu dans l'église ou qui avaient lieu dans la société, dans la ville autour. De la même façon qu'on est bombardé de toutes sortes d'influences à droite et à gauche et on a besoin, nous aussi, de revenir à la parole de Dieu pour être affermi sur le roc, sur la vérité. Et on a entamé donc cette série qu'on a appelée « Christ suprême et suffisant ». C'est un thème qui traverse l'Épître aux Colossiens et Paul parle de Christ de façon vraiment spéciale. Et la semaine prochaine, on va voir un des textes les plus sublimes du Nouveau Testament qui parle de la suprématie, de la prééminence de Jésus-Christ. Mais en attendant, aujourd'hui, on va regarder une douzaine de versets dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens où Paul mentionne sa reconnaissance à Dieu pour les Colossiens. Et ce qu'il fait dans ces premiers versets-là, ensuite, il dit aux Colossiens, « Je prie pour vous et voici comment je prie pour vous. » Donc, il leur ouvre un petit peu son carnet de prière pour que les Colossiens puissent voir de quelle façon est-ce que Paul prie pour eux et soit encouragé par ça. En fait, la façon dont j'aimerais qu'on puisse regarder ce texte-là, c'est comme un texte qui nous apprend à prier. Souvent, on ne sait pas comment prier, ou des fois même si on sait prier, on prie encore moins qu'on sait comment prier. Mais ce texte nous apprend à prier, et il nous montre un exemple d'une prière selon le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai intitulé le message ce matin, « Une prière selon le cœur de Dieu ». Et on voit Paul qui est rempli de l'Esprit du Seigneur et qui prie pour les Colossiens d'une façon qui démontre clairement le cœur de Dieu pour l'Église de Colosse et pour toute l'Église de Jésus-Christ, non seulement au premier siècle, mais encore aujourd'hui. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si ce n'est déjà fait, dans l'Épître aux Colossiens, qui se situe à peu près à la moitié du Nouveau Testament. Il y a les quatre évangiles. Désolé, donc, dans le Nouveau Testament, il y a les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Donc, on est là. Si vous avez les Thessaloniciens, les Timothées, c'est un petit peu avant dans votre Bible pour arriver à l'Épître aux Colossiens. Et je vais lire pour vous Colossiens, chapitre 1, les versets 3 à 14. En regardant, essayez de voir de quelle façon ce texte est un exemple d'une prière selon le cœur de Dieu. Il nous apprend, comme chrétiens ou comme des gens qui cherchent Dieu, qui cherchent à en savoir sur Dieu, qui cherchent à être en communion avec Dieu, à savoir qu'est-ce qu'il veut pour ma vie, de quelle façon est-ce qu'on peut s'adresser à Dieu, de quelle façon est-ce qu'on peut prier à Dieu d'une façon qui va rejoindre son cœur ou en lien avec son cœur. Alors, je lis la parole de Dieu. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. L'Évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Pardon. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre connaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Alors, j'aimerais diviser le message de ce matin en deux sections. J'aimerais d'abord qu'on regarde de quelle façon cette prière de Paul est une prière remplie de reconnaissance. Et deuxièmement, de quelle façon c'est une prière pour nos plus grands besoins. Donc, une prière qui est remplie de reconnaissance et une prière pour nos plus grands besoins. Alors, tout d'abord, une prière remplie de reconnaissance. Lorsque j'ai commencé à étudier l'Épître aux Colossiens il y a quelques semaines d'une façon un peu plus intense pour la préparation de cette série d'études, de messages, je me suis rendu compte que le thème de la reconnaissance, ou ce qu'on appelle un peu plus dans le vieux français, les actions de grâce, c'est une façon de dire merci à Dieu, de remercier Dieu, la reconnaissance envers Dieu, c'était un thème important dans l'Épître aux Colossiens. C'est un élément clé même de la prière dans Colossiens. Et la reconnaissance est mentionnée à deux endroits dans notre texte ce matin. Tout d'abord, dans le verset 3 qu'on a lu, « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. » Alors, Paul et Timothée, les deux auteurs de la lettre, malgré qu'il y a une partie de la lettre que c'est « je », donc on estime que c'est Paul qui était l'auteur principal. Mais Paul dit que lui et Timothée, lorsqu'ils prient Dieu pour les Colossiens, ont non seulement une prière remplie de requêtes pour les Colossiens, mais ils ont des prières remplies d'actions de grâce, remplies de reconnaissance. Au verset 12, une des choses pour lesquelles, on va le voir tantôt, une des choses pour lesquelles Paul prie pour les Colossiens, c'est qu'ils soient reconnaissants à Dieu pour le grand salut dont ils ont été les bénéficiaires. Dans Colossiens 2, au verset 7, Paul dit « Soyez enracinés et fondés en Jésus-Christ, en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en actions de grâce, en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Donc, soyez riches en actions de grâce, abondés de reconnaissance, de remerciement à Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est. C'est pas fini, il y en a deux autres. Colossiens 3, verset 15, dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et là, on a une toute petite phrase, et soyez reconnaissants. On pourrait juste prendre ce morceau-là, on dirait que ça sort un peu de nulle part, Paul est en train, dans ce passage-là, il fait des longues phrases, il parle d'être enraciné dans la parole de Dieu, d'être enraciné dans la paix de Dieu. Puis là, il y a cette toute petite phrase, « Et soyez reconnaissants. » Ce n'est pas quelque chose qui nous caractérise en Occident et probablement encore moins au Québec. On n'est pas réputé d'être une société de gens reconnaissants. On est plutôt réputé pour être une société de gens chialeux. On trouve les bibittes partout. Il y a toujours des bonnes raisons pour se plaindre, peu importe combien de choses vont bien, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre gouvernement. Il y a toujours des bonnes raisons pour se plaindre. On a toujours des bonnes raisons pour chialer et passer à côté de beaucoup d'opportunités d'être reconnaissant. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit ignorer les problèmes. Non, on doit y faire face. Puis comme société, se battre pour une société de plus en plus juste. Cependant, on peut être reconnaissant pour les bénédictions qu'on a dans notre pays, dans nos familles, dans nos vies. Que le gros, je dirais, de ce qui préoccupe nos pensées soit pas autant tout ce qui fonctionne pas, mais les choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et on voit Paul qui est reconnaissant, malgré qu'il y a des défis dans l'église de Colosse, malgré qu'il y a des défis dans à peu près toutes les églises à qui il écrit dans presque chacune de ses lettres. Il commence en disant qu'il est reconnaissant au Seigneur pour les gens à qui il écrit. Et le dernier endroit qui parle de reconnaissance dans ce texte, c'est Colossiens 4, verset 2, qui nous parle de prière. Et justement, dans notre série dans Colossiens, c'est juste aujourd'hui qu'on va parler d'une façon particulière de prière, d'un exemple de prière, de comment est-ce que cette épître nous apprend à prier. Mais Colossiens 4, 2 dit « Persévérez dans la prière. Lâchez pas dans la prière. » Et il continue en disant « Veillez-y dans une attitude de reconnaissance ou bien avec action de grâce. » Donc, persévérez dans la prière, pas juste de cogner fort pour que Dieu réponde à vos requêtes, mais qu'à travers vos requêtes, ça soit mélangé de reconnaissance et d'action de grâce. Une prière selon le cœur de Dieu va être une prière qui est remplie d'action de grâce, en même temps qu'on apporte nos difficultés, en même temps que, comme on chantait, qu'on crie à Dieu parce qu'on a besoin de lui dans les tempêtes de nos vies, mais que ça ne nous empêche pas de pouvoir être reconnaissants pour ce que le Seigneur fait pour nous. Et si on recule donc à notre texte, Colossiens 1, verset 3, pour quelle raison est-ce que Paul est reconnaissant ici? Et ça aussi, ça a de quoi informer nos prières et informer notre reconnaissance. On a beaucoup de choses à apprendre de l'exemple de comment Paul prie. Paul remercie Dieu à cause de la foi des Colossiens, au verset 4. Il dit... Donc, voyez ce pourquoi Paul remercie Dieu dans ces versets-là. Je vais le relire. « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Une espérance dont ils ont entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile, qui est parvenu jusqu'à vous. » Tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, si vous avez une version un petit peu plus vieille, j'utilise la seconde 21 ici qui... mais plus de points. Donc, on arrête la phrase, puis ensuite, on commence une nouvelle phrase. Si vous avez une version un petit peu plus littérale, la Louis II, on a beaucoup de... je pense que c'est des pronoms relatifs. Donc, par exemple, au verset 5, là, « À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel, cette espérance qui vous est réservée, à cause... Non, cette espérance qui vous est réservée au ciel, dont vous avez entendu parler, à cause de la parole de vérité, l'Évangile, qui vous est parvenue. Et ça, dans le fond, ça reflète la phrase que Paul a écrite en grec dans la langue originale. Paul, il empile des participes présents, des pronoms relatifs. Paul aimait ça faire des longues phrases. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Pierre parle des lettres de Paul qui sont parfois difficiles à comprendre. Et au niveau de la grammaire, j'imagine que c'était pas de la deuxième année, là, du primaire, les longues phrases de Paul. D'ailleurs, les 12 versets qu'on regarde aujourd'hui forment deux phrases. Donc, les 12 versets, Paul, il fait ça en deux phrases, lui. Puis même, la deuxième phrase, on l'a coupé au verset 14, mais Paul y continue. Il n'a pas fini sa phrase. On va avoir la suite de la deuxième phrase de Paul la semaine prochaine. Mais on va la couper là pour le moment. Puis dans la majorité de nos Bibles, pour rendre ça un petit peu plus facile à comprendre en français, on met des points, puis là, on réexplique, puis on continue. C'est une bonne chose pour que le texte soit plus lisible, mais si on trace la pensée de Paul, lui, c'est comme une longue action de grâce. Et ça, c'est sa première phrase. Les versets 3 à 8, c'est une longue action, une action de grâce de Paul. Et ensuite, les versets 9 à 14, là, c'est la prière de Paul. Ici, dans la version que j'utilise, la seconde 21, Paul, il dit, la façon que c'est traduit au milieu du verset 9, « Nous demandons que vous soyez remplis. » Donc, il dit ce pourquoi il prie. « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. » Puis là, il y a un point. Ça dit « Vous aurez pour fruit. » Mais Paul, lui, il ajoute des parties, ça, ce qui serait des participes présents en français, disant « Ayant pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. » Et progressant dans la connaissance de Dieu, étant fortifié à tout point de vue, exprimant votre reconnaissance. Donc, dans le fond, tout ça, c'est la continuation de la prière de Paul. Peut-être que, bon, je ne suis pas un spécialiste du grec, ceux qui ont traduit ça le connaissent mieux que moi, ils ont des bonnes raisons pour l'avoir traduit comme ça, mais moi, je pense que ça vaudrait la peine de voir ça comme... Surtout la deuxième section, on va en parler tantôt, comme la prière de Paul. Il est moins en train d'expliquer la façon que ça va avoir l'effet sur nous que de nous montrer de quelle façon il prie pour les Colossiens et pour l'Église de Christ, de quelle façon on peut prier les uns pour les autres. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. Pourquoi est-ce que Paul est reconnaissant? Paul n'est pas tant reconnaissant pour la nouvelle auto que... frère Archip a pu s'acheter. Ou pour la maison, la nouvelle maison qu'ils ont pu s'acheter, l'autre famille. Alors, ce sont des belles choses. Et ce sont des bénédictions que Dieu nous donne, à moins peut-être qu'on s'endette un peu trop par-dessus la tête pour se payer des choses. Alors, ce qu'on peut proclamer être une bénédiction devient une malédiction. Mais soyez sages avec vos finances. Mais ce n'est pas un message sur les finances, ça sera pour une autre fois. Mais Paul est reconnaissant pour les choses les plus importantes. Il est reconnaissant pour la foi des Colossiens. Il est reconnaissant pour leur amour pour tous les croyants, pour tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont été sanctifiés par Jésus, qui ont été purifiés et qui ont été appelés à être mis, qui ont été mis à part pour le service de Dieu. Il est reconnaissant au verset 5 aussi pour l'espérance que les Colossiens ont qui est dans le ciel. Il est reconnaissant ensuite au verset 6 et 7 pour le progrès de l'Évangile. Il mentionne que l'Évangile est parvenu à Colosse, tout comme dans le monde entier. Bon, il n'était pas encore arrivé jusqu'en Amérique, mais dans le monde que Paul connaissait, dans le monde connu, dans le monde romain de l'époque. Où l'Évangile portait des fruits, progressait, que l'Évangile était venu jusqu'aux Colossiens par Épaphras, celui qui leur avait probablement annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus, celui qui avait probablement fondé l'Église de Colosse et qui, Paul dit, est un bien-aimé compagnon de service et pour les Colossiens, un fidèle serviteur de Christ, au verset 7. Paul est reconnaissant pour des hommes comme Épaphras à cause de leur amour pour leur Seigneur, de leur zèle pour l'Évangile. N'est-ce pas logique qu'une prière de reconnaissance selon le cœur de Dieu va se réjouir de ce qui réjouit le plus le Seigneur? Alors, n'est-ce pas logique qu'une prière de reconnaissance selon le cœur de Dieu soit une prière... que cette prière-là de reconnaissance va se réjouir de ce qui réjouit le plus le Seigneur? Dans 2 Thessaloniciens 1, versets 3 à 4, on voit encore Paul qui est reconnaissant pour quelque chose d'autre. Là, pour une autre église, l'église de Thessalonique. Il dit, « Frères et sœurs, au début de sa lettre, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et des difficultés que vous supportez. » C'est intéressant que Paul, il leur dit qu'il ne voit pas les persécutions et les difficultés auxquelles ils font face comme des malédictions qu'on doit implorer à tout prix que ça cesse. Mais Paul les voit comme des opportunités spéciales pour que les Thessaloniciens portent du fruit, que leur foi et leur persévérance soient affermies. Et pour ça, Paul rend gloire à Dieu. Alors, des prières de reconnaissance qui sont de plus en plus en lien avec le cœur de Dieu vont être des reconnaissances non pas pour la nouvelle auto que nous avons achetée. On peut s'en réjouir, oui. Ou pour notre sortie excitante qu'on a faite. Hier, j'ai gagné un frère. Ma belle-sœur s'est mariée, qui était ma sœur par alliance. Puis là, j'ai gagné un frère, Jean-Sébastien, qui est mon beau-frère maintenant. Et je me réjouis de ça. Puis le mariage, c'est une institution donnée par le Seigneur. Il y a quelque chose de particulièrement béni là, plus qu'avoir une nouvelle auto dans le fait de se marier. Une semaine de vacances, souvent que ça fait du bien. Ou une semaine de voyage. Des fois, on passe l'année. Ou on passe 2 ans à planifier notre semaine de vacances, à planifier nos 2 semaines de voyage. Et on y pense tout le temps. On a hâte, on bâtit l'anticipation. Puis là, quand on va au voyage, ou là, on a les mariés qui vont être en voyage de noces au Mexique, tant mieux pour eux. Ils vont sûrement avoir du bon temps chaud ensemble. Mais nos vacances, on peut être reconnaissant pour ça. Puis, je ne dis pas que Dieu il est grognon par rapport aux choses qui nous donnent de la joie. Il est un père qui se réjouit avec ce qui réjouit ses enfants. De la même façon qu'un papa ou une maman se réjouit de ce que son enfant a accompli quelque chose, a réussi à construire sa tour de bloc, puis il est tout fier, puis là, il va voir papa ou maman. Il n'y a pas un grand moment spirituel qui est arrivé à ce moment-là, mais un père ou une mère est content et félicite son enfant et se réjouit avec lui pour les joies de la vie. Mais ce qui va réjouir le plus le Seigneur, c'est de nous voir marcher dans ses voies et de prendre plaisir en lui. Il n'y a rien que nous puissions faire pour apporter plus de gloire et de joie à Dieu que de prendre plaisir en lui par-dessus tout. Un pasteur théologien que j'apprécie beaucoup, John Piper, a bâti un peu son ministère autour de cette phrase qui dit « Dieu », je ne sais pas si c'est la bonne façon de le traduire, je la connais en anglais. Je vais vous la citer en anglais, puis ensuite je vais mal vous la traduire en français. Il dit « God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. » Dieu est le plus glorifié lorsque nous sommes le plus satisfaits en Lui. La manière pour laquelle nous pouvons le plus glorifier Dieu, c'est pas nécessairement par des grandes œuvres, mais c'est par des cœurs qui le chérissent lui par-dessus tout. Et ça va nous amener possiblement à de grandes œuvres, ou à la persévérance dans la souffrance, ou à des choses qui, aux yeux du monde, semblent petites, mais auxquelles Dieu vous appelle en ce moment. Et c'est ça la puissance de l'amour, d'être pleinement satisfait dans l'objet de notre amour. Une femme qui aime vraiment son mari l'aime peu importe la taille de son salaire et l'aime peu importe la taille de son pantalon. Elle l'aime peu importe l'état de sa santé, peu importe son humeur de la journée, peu importe sa dépression ou ses autres problèmes de santé mentale, s'il y a lieu. Une femme qui aime son mari va aimer son mari pour qui il est et parce qu'il est son mari. Pas parce qu'il lui donne beaucoup de choses, pas parce qu'il lui donne une grosse maison, parce qu'il lui paye des grandes sorties, mais parce qu'il est son mari. Et vice-versa. On dit souvent des gens qui sont en amour, qui peuvent vivre d'amour et d'eau fraîche. L'autre fait notre joie, et peu importe les circonstances de la vie, on peut être dans la rue, c'est correct, tant qu'on est ensemble, on va être heureux. Alors, c'est un peu une image de cet amour qu'on a pour Dieu, que c'est ça qui va le plus le glorifier, qui va lui apporter le plus de joie, le plus de plaisir, lorsque notre amour pour lui, notre satisfaction en lui, dépasse tout le reste. L'apôtre Jean, dans sa troisième lettre, donc 3 Jean, c'est peut-être pas une lettre que vous avez lue souvent ou dont vous vous souvenez, c'est l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Donc, si vous voulez tourner avec moi, vous pouvez garder un doigt dans Colossiens. Donc, le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. Juste avant, c'est Jude. C'est 1 ou 2 pages, 1 chapitre. Et juste avant, c'est 3 Jean. Une lettre que l'apôtre Jean a écrite à un ami, l'ancien bien-aimé Gaius, que Jean aime. On n'a pas plus d'informations sur Gaius. Mais je voulais attirer votre attention sur comment Jean commence sa lettre à Gaius. Il dit, « Bien-aimé, au verset 2, 3 Jean, verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors Jean souhaitait que son ami Gaius prospère à tout point de vue. Donc, j'imagine que ça veut dire qu'il ne soit pas dans la rue. Donc, il espère qu'au niveau financier, ça se passe bien. Au niveau relationnel, ça se passe bien. Il espère qu'il prospère en tout point de vue et qu'il soit en bonne santé. Et il dit « à l'image de ton âme ». Donc, il a entendu des bonnes nouvelles de la sincérité, de la manière dont il marche dans la vérité. Et le verset 4, un verset que... ma mère nous répétait souvent et qu'elle répète à quiconque lui parle de ses enfants, a dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors, la plus grande joie du cœur de Jean et du cœur de Dieu est de voir ses enfants marcher dans la vérité. Alors qu'on voit Paul être reconnaissant à Dieu pour les Colossiens, ce qui réjouit le plus son âme, ce qui amène des actions de grâce de son cœur, et le fait que ses frères et ses sœurs de Colosse marchent dans la vérité. Alors nous-mêmes, lorsqu'on pense à quel genre d'action de grâce offrir à Dieu, quand on commence nos prières, ou alors qu'on offre des requêtes à Dieu, de quelle façon est-ce qu'on peut mêler de l'action de grâce, alors qu'on prie pour des gens aussi, être reconnaissant pour leur foi, être reconnaissant pour leur amour, à avoir une prière selon le cœur de Dieu, qui est reconnaissant pour les choses qui comptent le plus pour Dieu. Mais j'aimerais sauter aussi au verset 12. Parce que c'est une des choses pour lesquelles Paul prie. Là, je saute un peu dans la deuxième moitié de mon message. Mais Paul prie pour que les Colossiens, au verset 12, expriment avec joie leur reconnaissance au Père. Il dit qu'il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et il va continuer sa phrase en parlant de comment Jésus est génial, de comment Jésus est suprême et puissant et divin, créateur et maître. Et comment, ensuite, les versets 21 à 23 aussi, comment il est mort pour nous. Mais la raison suprême, chers amis, pour laquelle nous pouvons et devons être reconnaissants, si nous connaissons le Seigneur, c'est qu'il a pourvu à un salut plein et parfait pour nous. Le message central de la Bible, le pilier central de ce que nous croyons ici comme Église, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Il y a plus de 2000 ans, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et que c'est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés, la seule façon que nous pouvons accéder à la vie éternelle, la seule façon que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, c'est par la mort de Jésus à notre place. Que Jésus a pris nos péchés sur lui à la croix. Lui qui était de condition divine, comme on l'a entendu au mariage hier dans Philippiens 2, lui qui était égal avec Dieu, s'est humilié en subissant la mort de la croix. Les versets 13 et 14 ici nous le disent. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et c'est le seul en qui nous pouvons être rachetés, par qui nous pouvons être Nous qui étions esclaves du péché, peut-être que vous l'êtes encore, peut-être que vous vivez de cette façon-là, encore dans votre cœur que vous êtes esclave au péché. Peut-être que vous êtes chrétien, mais vous vivez comme si vous étiez esclave. Vous êtes des esclaves fonctionnels. Même si vous avez été libéré, on a tendance à retourner à nos anciens maîtres. Mais ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Il y a une influence, mais Christ brise nos chaînes par sa mort. On va le voir aussi dans Colossiens 2, un magnifique passage que Christ a triomphé sur toutes les puissances spirituelles. Et le moyen de pouvoir goûter à ce pardon de Dieu, de pouvoir goûter à cette vie éternelle qui est disponible à chacun d'entre nous, à chacun de nos bien-aimés, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons pas mériter le pardon de Dieu par nous-mêmes. Et que la seule façon que nous pouvons accéder à Dieu, c'est par Jésus. C'est en lui demandant de devenir notre maître, notre sauveur, lui demander pardon pour nos péchés, et dire « Viens, prends ma vie. J'ai essayé de le faire par moi-même. Maintenant, je te donne le contrôle. J'ai essayé de prendre ma vie entre mes mains, la diriger par moi-même. Par bout, ça a bien marché, puis par bout, ça n'a pas bien marché. Alors, je suis prêt à te l'abandonner, te faire confiance que tu vas être capable de mieux prendre soin de ma vie que moi, je suis capable d'en prendre soin moi-même. » Et tous ceux qui font cette décision-là, le Seigneur nous promet de nous accompagner. Ça ne va pas toujours être facile. Ça va peut-être même nous apporter des difficultés supplémentaires. Mais le Seigneur va toujours être présent et nous donne une espérance, comme Paul il parle pour les Colossiens, une espérance qui dépasse les souffrances qu'on peut vivre ici-bas. Alors, une prière qui est selon le cœur de Dieu va être une prière qui est remplie de connaissances, une prière remplie de reconnaissance pour les choses les plus importantes, comme la foi, l'amour, l'espérance, et particulièrement le salut que Dieu a pourvu pour nous en Jésus. Lui qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Quelle image puissante! Alors maintenant, en deuxième lieu, à quoi va ressembler une prière selon le cœur de Dieu? C'est une prière où on exprime nos requêtes, mais où on va prier pour nos plus grands besoins. Lorsqu'on prie, nos requêtes reflètent ce que nous croyons avoir le plus de besoins. Lorsqu'on prie, ça reflète ce que nous croyons avoir le plus besoin. Et Paul exprime ce besoin-là dans les versets 9 à 14. On va peut-être condenser 9 à 12. Lorsque Paul y prie pour les Colossiens, il prie pour ce dont ils ont le plus besoin. Si on pourrait résumer ça, là, il y a beaucoup de matériel là-dedans. C'est une foi vivante et croissante. Une vie qui plaît à Dieu. Il y a deux éléments qu'on peut en ressortir. Paul prie pour que les Colossiens connaissent la volonté de Dieu et pour qu'ils marchent d'une manière digne à plaire au Seigneur. Donc, regardez ça avec moi un petit peu, là. S'assurer que je n'invente pas quoi que ce soit, mais que ça sort bien du texte, là. Colossiens 1, 9, Paul dit, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Ça, c'est, je dirais, la première requête de Paul. Il prie pour que les Colossiens connaissent la volonté de Dieu. Peut-être la façon que ça dit que vous goûtiez à la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, c'est qu'ils connaissent la volonté de Dieu d'une façon pleine et riche, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et ensuite, au verset 10, la deuxième requête, ça dit « pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement ». Il décrit quatre caractéristiques d'une marche digne du Seigneur qui lui plaît. J'aimerais revenir à la question de connaître la volonté de Dieu. Paul y prie pour les Colossiens qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Probablement que si vous avez été chrétien pendant une partie de votre vie, lorsque vient le moment de prendre des décisions difficiles ou des grandes décisions dans la vie, on se demande, OK, Seigneur, c'est quoi ta volonté à travers tout ça? Lorsqu'on est jeune, qu'on a des grandes questions des domaines d'études, quelqu'un à fréquenter, des questions de mariage, peut-être si vous faites face, si vous pensez adopter des enfants, ce genre de grandes questions-là, des choses qui vont avoir un gros impact sur le restant de votre vie. Le choix d'un emploi, est-ce que je devrais quitter mon travail pour aller à un autre endroit? C'est des moments assez clés dans notre vie où on veut rechercher la volonté de Dieu. Lorsqu'on est à la croisée des chemins, on recherche la volonté de Dieu à juste titre. Et des fois, c'est pas évident de savoir c'est quoi la volonté de Dieu à travers ça. Et peut-être qu'on va demander un signe à Dieu pour cette question-là qui nous préoccupe. On ne sait pas qu'elle est à droite, comment elle est à droite ou à gauche. Mais j'aimerais suggérer le fait que la connaissance de la volonté de Dieu est plus simple qu'on la pense, souvent. Pour ce qui est des grandes questions, ça demeure pas évident. Ça demande de prier, de chercher le motif de nos cœurs, demander conseil, puis des fois de se lancer, puis de dire, « Bon, Seigneur, j'essaye. Ouvre la porte si tu veux, sinon ferme-la. » Tandis que de rester assis et de ne rien faire jusqu'à ce qu'il y ait un signe clair du ciel, là, on n'est probablement pas dans la volonté de Dieu. Si je vais rester à la maison à regarder la télé jusqu'à ce que j'aie une manifestation de la volonté de Dieu qui me dise d'aller étudier ou chercher un emploi pour travailler. Alors, non, là, il y a des choses pour vous dans la Bible à propos du fait de ne pas être paresseux. Je ne parle pas si vous êtes invalide, mais il y a moyen d'être invalide et paresseux aussi. Donc, on peut servir les autres en étant un soutien, en prenant soin des autres, même au téléphone, à distance, par la prière. On peut être riche en bonnes œuvres, même si on ne peut pas aller travailler à temps plein pour un salaire. Mais connaître la volonté de Dieu, ça se vit d'abord dans l'obéissance aux petites choses. Et il y a quelques versets qui sont assez clairs au niveau de la volonté de Dieu. Et ce qui fait qu'on a de la misère au niveau de connaître la volonté de Dieu, si on est honnête, ce avec quoi on a le plus de difficultés, ce n'est pas les grandes choses, mais c'est l'obéissance dans les petites choses. Je vais vous mentionner, j'aimerais vous lire trois passages qui parlent de la volonté de Dieu. Et vous allez voir que ça, c'est des choses que vous pouvez rentrer à la maison tantôt et vous dire, je sais c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Peut-être que je ne sais pas dans quel domaine je vais étudier. Peut-être que je ne sais pas si je dois déménager pour être missionnaire au Moyen-Orient. Mais je sais que ça, c'est la volonté de Dieu dans ma vie. 1 Thessaloniciens 4, versets 2 à 5, dit ceci. Vous savez en effet... C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ou votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps, incluant ses yeux, dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. On se demande c'est quoi la volonté de Dieu? C'est notre sainteté. C'est notre progression dans la sainteté. Qu'on s'abstienne d'immoralité sexuelle, de toutes ses formes, au niveau du corps, au niveau des yeux, au niveau de nos pensées. Deuxième passage, 1 Thessaloniciens 5, 17, dit, 5, 16 et 17, dit ceci. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance. Lien avec le premier point, la reconnaissance. Hein? Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Vous vous demandez quelle est la volonté de Dieu pour vous aujourd'hui? Eh bien, c'est d'être toujours joyeux, de prier sans cesse, puis d'exprimer votre reconnaissance en toutes circonstances. Comme dit le Louis II, rendez grâce en toutes choses. Dernière citation, Romains 12, 2. qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Et on pourrait mettre un deux points là, « ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, peu importe que vous alliez étudier en soins infirmiers ou en comptabilité, il y a là de quoi faire ce qui est bon, agréable et parfait. On ne va pas être en train de pécher si on va étudier en comptabilité, à moins que le Seigneur y rende ça clair à vous, puis que vous fassiez un Jonas, puis que vous couriez à l'autre bout, alors que le Seigneur vous appelle à faire quelque chose en particulier. Mais c'est fort possible qu'il n'y ait pas de conviction claire. Puis c'est correct, il y a moyen de servir le Seigneur en comptabilité, tout comme en soins infirmiers, ou dans n'importe quel domaine d'études ou de travail. Travailler à l'usine, peu importe. Donc, Paul prie pour les Colossiens. Et sa première prière pour eux, c'est qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Que ça, et il dit « en toute sagesse et intelligence spirituelle ». On peut connaître la volonté de Dieu. Peut-être pas autant qu'on aimerait, mais pour ce qu'on a besoin de savoir, Dieu nous a révélé sa volonté dans la Bible. Et on peut aller la voir. Ça vaut la peine de se la rappeler. Ça vaut la peine de l'étudier. Ça vaut la peine de la serrer dans notre cœur. La deuxième requête que Paul fait, et je dirais que c'est un gros morceau, les versets 10 à 12. Il dit, il prie pour les Colossiens pour qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Donc le premier, c'était au niveau de la connaissance, au niveau de la pensée, au niveau de l'intelligence, de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, s'abstenir de l'immoralité sexuelle, d'être toujours joyeux, de prier sans cesse, de rendre grâce en toute chose. Donc le premier, c'est plus au niveau de la pensée, puis le deuxième, c'est plus au niveau de l'action, plus au niveau de la vie, au niveau de notre conduite, notre façon de marcher, comme Paul utilise le terme. On ne marche pas en étant assis. Donc, on marche, il y a une action. C'est une façon de vivre notre vie. Et il y a quatre caractéristiques que Paul mentionne d'une vie qui est digne du Seigneur et qui lui plaît. Tout d'abord, suivez avec moi, là, je ne vais pas nécessairement le lire, puis dépendamment de votre traduction, mais suivez avec moi la deuxième moitié du verset 10, de produire pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres, toutes sortes d'œuvres bonnes. Paul prie pour les Colossiens qui marchent d'une manière digne du Seigneur. La première façon par laquelle ça va se manifester, c'est qu'ils produisent du fruit, des bonnes œuvres, de toutes sortes de façons. La deuxième chose, c'est qu'ils progressent dans la connaissance de Dieu. Bon, ça revient à notre premier point. Et ça, c'est quelque chose aussi, on a vu la semaine passée, il y avait une influence à Colosse, il y avait une recherche de la sagesse, une recherche de la connaissance, les discours intéressants, l'influence grecque, c'était quelque chose qui était là. Paul, il leur rappelle, ce dont vous avez le plus besoin, là, c'est la connaissance de Dieu. Puis pas besoin d'une nouvelle affaire, ce que Dieu vous a révélé. Dans l'Ancien Testament, ce que Dieu vous a révélé en Christ, par l'enseignement des apôtres, qui était en train de se faire écrire, maintenant, là au complet. On l'a la Bible au complet, la révélation finale de Dieu pour nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais de grandir dans la connaissance de Dieu. Le troisième, c'est la puissance. Paul il dit au verset 11, « Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. » Donc, goûter à la puissance de Dieu, être fortifié pour être persévérant et patient. Donc, une façon de plaire au Seigneur, de marcher d'une façon digne du Seigneur, c'est d'être persévérant et patient. Pas quelque chose que j'essaie de produire de moi-même, mais par la force de Dieu qui agit en moi. Par la patience de Dieu qui agit en moi. Par la force de Dieu qui me rend capable de continuer, de persévérer. Et la dernière façon de marcher d'une manière digne qui plaît au Seigneur, je l'ai mentionné dans notre premier point tantôt, c'est d'être que les Colossiens soient reconnaissants au Seigneur pour le salut. qu'ils abondent en actions de grâce envers Dieu pour l'immense salut que Dieu leur a donné en Jésus-Christ. Alors, de quelle façon est-ce que nous aussi, on peut prendre ça, puis en faire... Comment est-ce que ça instruit notre vie de prière? De quelle façon est-ce que la prière de Paul est un exemple de prière pour nous? En somme, je dirais que si vous tournez votre page, que vous allez dans Colossiens 3, les trois premiers versets, un passage avec lequel vous êtes peut-être bien familier, je lis, ça dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il dit aussi, « Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Si on veut prier des requêtes conformément selon le cœur de Dieu, on va prier pour ce dont on a le plus de besoin. Et ça, c'est de grandir dans la foi. C'est d'être affermi dans la foi. Et lorsqu'on prie pour ceux qu'on aime, de la même façon que Paul prie pour les Colossiens qu'il aime, des fois, on veut prier pour telle personne, « Bon Seigneur, je vais prier pour telle personne, que tu le bénisses, que tu la bénisses. » Puis on ne sait pas trop quoi rajouter par rapport à ça, que sa foi reste forte. Si vous avez de la misère à prier, puis moi aussi, ce que plusieurs chrétiens à travers les siècles ont trouvé utile pour prier pour les gens qu'ils aiment, c'est de prier avec la Bible, de prier avec la parole. Si vous voulez cette semaine prier pour des gens qui vous sont chers, que vous voulez prier pour vos enfants, que vous voulez prier pour votre Église, eh bien, vous pouvez le faire avec Colossiens 1, 3, 14, notre texte d'aujourd'hui, puis de prier ça pour les gens pour qui vous voulez prier, d'être reconnaissant à Dieu s'ils sont chrétiens pour leur foi, puis s'ils ne sont pas chrétiens, ben il y a plein d'autres raisons d'être reconnaissant aussi pour eux. Alors que vous priez pour eux, que vous êtes reconnaissant aussi pour les bénédictions, oui, matérielles, mais aussi spirituelles que Dieu leur donne. Puis si vous voulez prier pour des gens, prier pour vous-même, prier pour des gens, des requêtes, oui, pour le matériel, on en a besoin. Mais prier aussi, et plus particulièrement, pour nos plus grands besoins, qui sont nos besoins spirituels. Plus tôt, Benjamin nous a lu ce qu'on appelle la prière du Notre Père, où les disciples disaient, je pense que c'est dans l'Évangile selon Luc, qui demande à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Et dans cette prière d'environ 7 phrases que Jésus montre à ses disciples, il y en a une seule qui parle de nos besoins physiques et matériels. Mais elle est là. Aujourd'hui, peut-être on a beaucoup de défauts, là, mais un de nos grands défauts, c'est qu'on ne dépend plus de Dieu pour nos besoins matériels. On a un job, on a l'abondance, on a des finances, on a le supermarché. Au pire, les fruits et légumes, ils vont coûter un petit peu plus cher. Si quelque part ailleurs dans le monde, ils sont en train de mourir de faim, nous, ça va nous coûter un petit peu plus cher parce que la Californie ont raté leur... je ne sais pas, il y a eu de la sécheresse ou peu importe. Donc, on doit faire venir nos citrons du Chili à la place de faire venir de Californie, dont ça coûte plus cher. Mais nous, on ne vit pas grand-chose. Souvent, on ne dépend pas du Seigneur pour la nourriture. Mais c'est quelque chose qu'on gagne à faire, à exprimer notre dépendance au Seigneur pour la nourriture. Mais Jésus nous apprend et dit, « Notre Père qui est aux cieux », je le dis de la manière peut-être que vous connaissez par cœur, la première requête, « Que ton nom soit sanctifié ». La deuxième, « Que ton règne vienne ». Et ça, on peut l'appliquer à toutes sortes de circonstances. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça aussi, on peut l'appliquer à toutes sortes de circonstances. Ensuite, on prie pour nos besoins quotidiens. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça peut être la nourriture, ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a la confession aussi, la demande de pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Wow! Et là, ça nous ramène dans le visage, en pleine face, si on a des gens à qui on ne veut pas pardonner. Il y a une forme de conditionnalité au pardon de Dieu. qui nous appelle à pardonner les autres. Et la sixième demande, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, j'aimerais faire une application au niveau de nos prières pour la santé et la guérison. Parce que vous savez, lorsque la santé va bien, on ne s'en rend pas vraiment compte et on ne prie pas vraiment pour la santé. Lorsqu'on a été bien malade, puis que là, on redevient en santé, « Ah, là, on remercie Seigneur pour la santé », ça dure quelques jours, puis ensuite, on passe à autre chose. On ne s'en rend plus compte qu'on est en santé. Mais lorsque ça ne va pas bien, la santé, ou lorsque des gens qu'on aime, que la santé, ça ne va pas bien, alors ça nous affecte au plus haut point. Dans les souhaits de Nouvel An, lorsque c'était le Nouvel An, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, souvent, lorsque les gens se souhaitent le plus en premier, c'est la santé. Parce qu'on le sait, ou c'est ça qu'on dit, avec la santé, tout va, puis sans la santé, rien va. Bon, je pense qu'on peut être reconnaissant, même si ça va pas bien au niveau de la santé. Mais c'est vrai que quand la santé, ça va pas, c'est dur. Puis moi, je dis ça comme un gars qui a jamais été vraiment malade, donc... Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui vivez des situations médicales au niveau de la santé qui est difficile. Que vos corps vieillissent, nos corps vieillissent tous. On ne progresse pas vraiment vers la santé, mais nos corps se dépérissent, comme ça dit. Puis dans ce monde de péché, c'est normal. On va tous finir par mourir, à moins que le Seigneur Jésus revienne avant. Mais notre amour pour les gens qu'on aime nous amène à implorer Dieu pour la guérison pour eux. Et nous voyons Dieu dans la Bible qui prend plaisir à répondre à ses prières dans la Bible. On voit le roi Ézéchias dans les rois qui a imploré Dieu, que Dieu lui avait dit « Tu vas mourir dans X nombre de mois », puis il a prié « Seigneur, s'il vous plaît, épargne-moi. » Puis le Seigneur décide de l'épargner. Lui sauver la vie, il va lui donner X autre année et... Jérusalem ne va pas tomber pendant que lui est roi. Il y a Naaman, qui est l'officier de l'armée du roi Aram dans 2 rois 5, qui vient voir Élisée. Élisée l'envoie se laver dans le Jourdain. Naaman a de la misère. Il dit, voyons donc, on a des fleuves chez nous, j'aurais pu me laver chez nous, si c'était aussi simple que ça. Mais bon, il décide que ce soit une occasion de tester sa foi. Donc, il y va, il se plonge 7 fois dans le Jourdain et il est guéri. Dieu a répondu à sa prière. On voit à travers les évangiles, Jésus qui guérit des foules, tous ceux qui viennent. Et qui restaient dans des villages et ils devaient aller à part pour être capables de prier parce qu'il y avait tellement de monde qui venait et qui amenait les malades et les lépreux. Et Jésus les guérissait, chassait les démons. C'était non seulement que Jésus prenait soin physiquement de ces gens-là, mais aussi qu'il annonçait par ça la venue du royaume de Dieu. Le début d'un nouveau royaume qui est en train d'arriver. Puis les apôtres aussi, dans les actes des apôtres, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont guéris à travers les apôtres aussi. Dieu prend plaisir à répondre à la foi de ceux qui l'aiment et de guérir par la réponse à la prière. Cependant, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de nous accorder la guérison physique. On va tous mourir un jour. Si Dieu répondait toujours à nos prières de guérison, on ne mourrait pas. Mais c'est une des conséquences du péché qu'on va mourir. Alors, des fois, on peut être un peu prétentieux ou on veut faire preuve de foi que Dieu va guérir. On veut prier avec foi pour que Dieu guérisse, mais Dieu demeure souverain. Il ne nous est pas redevable, nous lui sommes redevables. Et parfois, le Seigneur permet que les gens ne guérissent pas. Paul avait une écharde dans la chair. Il a supplié ardemment 3 fois le Seigneur pour qu'il le lui enlève. Mais il dit, Dieu le lui a laissé pour ne pas qu'il s'enorgueillisse. Et il lui a dit, ma grâce te suffit. Timothée avait un problème au foie. Et Paul lui dit, non pas... prie avec plus de foi, tu manques de foi, si tu pries avec plus de foi, tu serais guéri, mais lui dit, prends un peu de vin pour tes indispositions. Alors, c'est possible que le Seigneur ne nous guérisse pas. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus prier pour la guérison? Non. On peut implorer le Seigneur, on peut lui demander, et le Seigneur prend plaisir à répondre aux prières de ses enfants. Il demeure néanmoins souverain. Et là où je veux me rendre, c'est que c'est possible pour vous et moi de produire du bon fruit à la gloire de Dieu, peu importe notre état de santé. Dieu est bien plus concerné par la santé de nos âmes, je ne sais pas, je vais aller au niveau du cœur, la santé de nos âmes que la santé de notre corps. Alors qu'on prie pour la santé du corps de nos bien-aimés, prions aussi pour la santé de leur âme, pour leur croissance dans la foi, qu'ils produisent du bon fruit. Je ne suggère pas de diminuer nos prières pour la santé et la guérison. Je suggère d'ajouter à nos prières que ceux qui souffrent dans leur corps, que ceux qui souffrent peut-être dans leur esprit, au niveau de la santé mentale, eh bien que leur foi puisse grandir, que leur connaissance de Dieu puisse s'affermir, qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu, qu'ils puissent marcher d'une façon à plaire à Dieu, même au travers de leurs difficultés, en attendant la guérison, ou que la guérison vienne ou pas. Priez à ce qu'ils puissent abonder en bonnes œuvres, qu'ils puissent abonder en actions de grâce envers Dieu. Alors, voici ma suggestion pour nous, alors, dans les prochaines années, qu'on va continuer à prier pour notre santé, pour la santé de ceux qu'on aime, jusqu'à notre mort, parce que nous aussi, on va y passer, à moins que Jésus revienne avant. Mais avec nos prières pour la santé et la guérison, on peut appliquer ça dans tous les domaines, toutes nos prières, prions aussi pour ce dont on a le plus besoin, d'une foi ferme et grandissante, d'un amour pour Dieu, d'une connaissance de sa volonté, de porter du fruit, peu importe nos circonstances. Vous savez, des fois, on dit, c'est pas ma faute si j'ai pété ma coche, comme on dit en québécois. C'est pas ma faute si j'ai crié, si j'ai été colérique. C'est parce que j'ai une mauvaise journée au travail. C'est parce que je suis fatigué. C'est parce que ma mère est malade. Et tout ça, ce sont des choses, c'est comme des influences sur notre cœur. Alors, il y a notre corps, on peut être fatigué, on peut être malade, et ça a tendance à nous rendre plus grognons, plus colériques, plus égoïstes, peu importe. Mais on peut produire du bon fruit par la grâce de Dieu, peu importe nos circonstances. Et on peut prier la même chose aussi pour ceux qu'on aime. Alors, nos circonstances peuvent expliquer nos circonstances, peuvent expliquer nos réactions, peuvent expliquer nos péchés, ne vont jamais l'excuser, par contre. On demeure responsable. Mais dans nos prières, qu'on puisse abonder en actions de grâce, qu'on puisse abonder en requêtes pour nos plus grands besoins, de connaître la volonté de Dieu, de marcher de manière de plaire à Dieu. J'aimerais terminer avec deux versets. Romains 12, 12 qui dit ceci. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients ou persévérants dans la détresse, dans l'affliction. Et persévérez dans la prière. Lâchons pas la prière, frères et sœurs. Et 1 Pierre 4, 7 qui nous dit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Comme on voulait avoir une année 2018 riche et bénie dans le Seigneur, on s'est dit que ça serait une année qui serait riche en prière, une année qui serait riche en méditation, en lecture de la parole de Dieu, une année riche en croissance communautaire. Mais faisons de cette année une année riche en prière, où on va abonder en actions de grâce pour les choses les plus importantes et particulièrement pour le salut de Dieu que Dieu nous a donné en Jésus-Christ ou qu'il a pourvu pour nous en Jésus-Christ. Et dans nos requêtes, prions pour nos plus grands besoins. Apportons nos besoins physiques, nos besoins financiers, nos besoins de santé à Dieu. Mais ne négligeons pas de prier pour nous et pour les autres, pour nos plus grands besoins. Notre besoin de Christ. que Christ soit suprême et suffisant pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse.